scientifiques de Paris qui se sont déplacés sur les lieux estiment la charge d'explosifs à 60 kg équivalent TNT placée dans la malle du véhicule, quoi. Par la puissance de l'explosion, il y a un souffle énorme qui vient frapper en fait le plancher du bus. Et c'est cette onde de choc qui est répercutée sur les articulations et qui casse les os dans un premier temps, mais aussi qui détruise des cartilages. Comment décrire ? J'ai eu le sentiment que ma tête avait triplé de volume. Et puis, très rapidement, je m'aperçois que mon bras est cassé, mes pieds sont en train de gonfler à vue d'œil. Et puis, c'est l'horreur autour de moi, quoi. Une grosse odeur de brûlé, l'impression que tout va s'enflammer. Et puis, il faut sortir du bus. Donc, je décide de sortir du bus. Mais pas sur mes pieds, en rampant. Et puis, je me retrouve dans le milieu de la rue, en attendant que les secours arrivent. Ça n'a pas été très long, quoi, en fait, hein. Alors, la première ambulance qui arrive, en fait, s'arrête face à moi, puisque moi, j'ai pu sortir du bus en rampant. Je pensais être le seul à être sorti du bus, d'ailleurs. Donc, elle prend en charge une mendiante qui était aux abords du bus, qui n'était pas dans le bus. Hein. Une mendiante qui était là, couramment, aux abords du Sheraton à Mandier, quoi. Et donc, cette mendiante qui était décédée est prise en charge par cette première ambulance qui arrive. Et puis, il n'y a qu'un brancard dans cette ambulance. Hein. Donc, moi, je suis chargé aussi dans l'ambulance. À côté de la mendiante, quoi, assis par terre, hein, où je remets, durant le transport, le bras de cette pauvre femme qui tombe sur moi. Enfin, c'est un peu dur. Alors là, on est transféré vers Jinnah Hospital. Les ambulances arrivent, en fait, hein, les unes après les autres. On est tous mis dans une pièce commune, hein, en fait. Hein, dans ces pays-là, on gère pas l'urgence comme dans les hôpitaux français où on sépare les morts des blessés. Hein. Tout le monde est dans une pièce commune. Voilà, donc je vois arriver de nombreux copains qui sont recouverts d'un drap blanc taché de sang. Enfin, voilà. Et puis mes collègues blessés aussi, bien évidemment. Hein, pour certains conscients, d'autres qu'ils ne sont pas. Et puis beaucoup de panique, surtout. Hein.
La voiture a été aussi piégée très vite, en une nuit.
France 5, 10 mai 2002.
Cet élément-là, associé à l'analyse du mode opératoire, de la planification longue et rigoureuse qui a été faite, des repérages, des informations confidentielles dont disposait vraisemblablement le réseau pour cibler précisément les Français, et puis au final l'exécution implacable avec une opération kamikaze et une voiture piégée, tout cela fait penser aux enquêteurs, notamment à ceux qui sont présents sur le terrain, DST, FBI, service pakistanais, qu'il s'agit bien de la main d'Al-Qaïda, qu'un réseau lié à Al-Qaïda, oui, est derrière cet attentat.
Dès votre retour en France, la thèse qui est avancée, c'est que c'est Al-Qaïda.
On est quand même 6 mois après le 11 septembre. Hein. Voilà, il faut savoir que la France est aussi engagée en Afghanistan. Le porte-avions Charles de Gaulle venait de passer quelque temps au large de Karachi. Hein. Et les avions français aussi avaient été amenés à bombarder le territoire afghan. Hein. Donc évidemment, nous, on n'est pas surpris quand on nous annonce en 2002, je dis bien en 2002, cette hypothèse-là, quoi. Aujourd'hui ne tient absolument plus. Hein.
Au bout de plusieurs années, qu'est-ce qui fait que vous voyez les choses autrement ?
Le tournant de l'affaire de Karachi, en fait, intervient au courant de l'année 2008. Hein. Au départ, en fait, c'est une perquisition de la brigade financière au siège de DCNS, hein, pour une affaire de corruption qui n'avait rien à voir, en fait, avec Karachi. Hein. Et donc, au cours de cette perquisition de la brigade financière, un certain nombre de documents sont saisis. Et entre autres, dans les documents qui ont été saisis dans le bureau de Gérard-Philippe Menayas, directeur financier administratif de DCNI, on retrouve les fameux documents dits Nautilus. Hein. Et donc, à la lecture de ces documents, les juges ont fait le rapprochement, en fait, avec l'affaire de Karachi. Hein.
C'est-à-dire que le point de départ de l'enquête, le second point de départ de l'enquête, au fond, est extérieur à l'attentat de Karachi, c'est une affaire de corruption de la direction des constructions navales. Il y a une perquisition qui se déroule là-bas, et là, on en sort ce qui est appelé le rapport Nautilus. Vous l'avez lu, le rapport Nautilus ?
DCNS avait en fait embauché dans les jours qui ont suivi l'attentat une officine qui était dirigée en fait par Claude Thévenet, un ancien de la DST. Hein. C'est une personne qui a passé 15 ans à la DST, à l'antiterrorisme.
La direction des constructions navales missionne un ancien agent des services secrets, oui, Claude Thévenet, pour savoir un peu ce qui s'est passé, oui, à Karachi, dans l'attentat de Karachi. Et M. Claude Thévenet rend un rapport dont je vais lire quelques lignes. Après de nombreux contacts, tant en Europe qu'au Pakistan, nous parvenons à la conclusion que l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 a été réalisé grâce à des complicités au sein de l'armée et au sein des bureaux de soutien aux guérillas islamistes de l'ISI. Les personnalités militaires ayant instrumentalisé le groupe islamiste poursuivaient un but financier Il s'agissait d'obtenir le versement de commissions non honorées lors de la signature du contrat.